Bien, bonjour, bonsoir. Merci d'être venu écouter La Vague, le nouveau roman de Ingrid Astier que nous avions déjà reçu en 2017 pour son roman Haute Voltige qui était à la série Noire. Là, elle a suivi son éditeur aux arènes et elle nous convie non plus à Paris, sur les toits de Paris, mais à Tahiti en compagnie de cette vague extraordinaire dont elle nous a apporté quelques croquis, quelques carnets d'écriture que vous avez pu voir aussi en vitrine. Et elle promet aussi à ceux qui voudront le faire dédicacer une belle aquarelle pour joindre à la signature. Donc déjà, vous êtes une amoureuse des océans, tu es amoureuse des fleuves et des océans depuis ta plus tendre enfance, même si tu as grandi en Bourgogne, donc loin de l'élément aquatique. Mais un imaginaire qui t'a forgé, la Polynésie était déjà peut-être là. Comment es-tu tombée, puisque à chaque fois, chacun de tes romans, on le comprend quand on t'écoute, c'est à chaque fois un coup de foudre, une histoire d'amour. Comment es-tu tombée amoureuse de cette vague et comment peut-on tomber amoureuse d'une vague?
Alors, bonsoir à vous. J'imagine que si vous êtes là, c'est que vous aimez aussi l'eau et l'océan. En tout cas, je l'espère. Et c'est cet amour qu'on va partager ensemble ce soir. Parce que moi, j'ai été très surprise par ça, en fait. La première fois que je suis allée en Polynésie, c'était en octobre 2010. Donc, vous voyez, ça remonte à quelques années. Et c'était au salon littéraire de Lire en Polynésie, avec des auteurs, en fait, d'Océanie Pacifique. Et ça, c'était extraordinaire, déjà, de m'ouvrir, de venir de France, de Paris, et de me retrouver comme ça, avec une sorte d'ouverture pacifique, dans tous les sens du terme, à rencontrer des auteurs de Nouvelle-Zélande, de Tahiti, d'Australie. Enfin, c'était vraiment quelque chose qui fait respirer aussi par rapport à ses références, sa culture. Parce qu'en Polynésie, à Tahiti, on parle français, mais la barrière, c'est vraiment une sorte d'illusion. Vous voyez, parce que évidemment que c'est la même langue, mais c'est pas du tout la même culture. Et ils ont un rapport à l'océan qui est magnifique. En fait, ils naissent avec une double face, on va dire. Parce que déjà, quand ils parlent, ils disent pas ben, « j'habite, tu vois, au croisement de telle route et de telle route ». Ils disent ben, « voilà, j'habite au point kilométrique 18 ». Donc par rapport à la route en fait, qui borde la mer, ça va être 18 kilomètres après le référent de base. Et après, ils disent... si c'est côté terre ou côté mer. C'est ça, leur façon de se représenter l'espace. Et ça m'a beaucoup marqué. Je me suis dit, bah, tiens, déjà, c'est pas des gens qui se réfèrent par rapport à, comme ça, un point sur terre, mais ils se positionnent par rapport à la nature. C'est-à-dire, bah, soit je suis côté mer, soit je suis côté terre. Et les deux sont très importants pour eux, parce qu'ils sont tout autant des gens, en fait, liés aux cultures, aux fruits, aux arbres, à la nature, aux fleurs, que vraiment des êtres complètement tournés vers l'océan. Et c'est des pêcheurs remarquables, c'est des navigateurs remarquables, c'est des surfeurs remarquables. Donc ça, c'est un rapport qui est déjà complètement... complètement subjugant pour quelqu'un comme moi qui aime l'eau. Et donc la première fois que j'y suis allée, je suis tombée sur un livre. Vous voyez, il faut se méfier des livres. Hein. Vous en avez plein dans la librairie Mola et vous savez que parfois, il y a cette sorte de chant des sirènes. Je suis sûre que dans une librairie comme ça, vous le vivez à chaque coin de comptoir. Hein. Mais il y a des livres qui nous appellent. Vous savez ça, hein, vous passez, puis vous ne savez pas pourquoi, si c'est le titre, la couverture, le tout, l'image, une sorte aussi de... ça peut être une typographie. Hein. Et il y a des livres comme ça, on a l'impression qu'ils sont pour nous. Et moi, j'avais vu à ce salon un livre qui s'appelait « Teahupo, la vague mythique de Tahiti ». Et j'étais déjà très sensible à tout ce qui était sport de glisse. J'avais fait beaucoup de roller quand j'étais jeune. Hein. C'était la pleine vogue du quad, donc des rollers, en fait, pas en ligne. Hein. C'était l'ancêtre, on va dire. Et c'était ma façon de vivre la ville. C'était de connaître la ville. Pour le coup, là, c'était Clermont-Ferrand. Donc, en plus, c'était extrêmement montagnard comme ville. Il y avait des descentes incroyables. Et c'est resté ce rapport vraiment de glisse, comme ça, de liberté, de tracer son, en fait son chemin comme ça, de façon très très libre. Et le surf, c'est quand même c'est une ligne d'une perfection totale. C'est ça qui est beau, c'est que c'est une ligne en plus qui s'efface, parce que la trace que laisse le surfeur, en fait, cette trace d'écume, hein, elle est destinée à disparaître, contrairement au freeride dans la neige. La neige, la trace, elle va rester, tandis que la trace dans l'eau, elle s'efface, et ça, je trouve que c'est magique. Il y a ce cheminement éphémère comme ça, qui est une signature qui est destinée à l'effacement. Donc c'est un exploit que je trouve extrêmement touchant. Alors je vous parlais de ce livre, et déjà j'ai commencé à être aspirée par la vague et à vous parler de la vague. Et ce livre, c'était le livre d'un grand photographe de sport extrême qui s'appelle Tim McKenna. Je ne sais pas si vous connaissez ses photos. Elles ont fait le tour du monde, notamment avec la vague du millénaire en 2000, quand Laird Hamilton a surfé Terra Hupo. Et ça a fait le tour du monde parce que vraiment, c'était une houle dantesque. C'était un mur. C'est là qu'on se représente en fait combien cette vague, elle est impressionnante. Et c'était tellement beau que je me suis dit, mais c'est pas possible, ce livre il est sublime. Donc évidemment, je l'ai ramené dans mes bagages. Ensuite, en France, je l'ai offert à tous mes meilleurs amis. Et après, quand je suis revenue en 2015, je me suis dit, il faut aller voir cette vague. Il faut vraiment aller voir Terra Hupo, parce que c'est un peu comme un Graal. Il faut avoir vu ça une fois dans sa vie, comme on voit la Tour Eiffel, comme on voit le Taj Mahal. Vous voyez, c'est tellement beau qu'on n'a pas envie de se contenter des photographies. Et là, quand j'y suis allée en 2015, en fait, cette vague, elle était vraiment plate comme une raie. C'est-à-dire, moi, je me représentais le monstre, quoi, vraiment le Terra Hupo grandiose, monumental, qui ressemble à une sorte de montagne. Et, sauf que c'est oublié que la vague, ben, elle décide quand elle se montre. Hein. C'est pas un phénomène automatique. C'est un phénomène mécanique, climatique. C'est un élan de 1200 km. Je ne sais pas si vous imaginez, hein, c'est Terra Hupo, c'est 1200 km d'élan depuis l'Antarctique. Donc il n'y a rien qui l'arrête. En fait, elle vient de l'Antarctique comme les baleines. Donc il y a aussi ce côté complètement fantasmagorique de se dire waouh, elle parcourt tellement de kilomètres juste pour venir comme ça mourir vraiment devant nous. Et ce jour-là, moi, j'étais en bateau avec Michael, qui est un des rares à surfer Chopo en longboard, ce qui n'est pas du tout adapté normalement à la configuration de cette vague.
Chopo, c'est le surnom.
Voilà, c'est le surnom, c'est le diminutif. Hein, tous les surfeurs de Tahiti disent tout le temps en Chopo. Et donc en 2015, moi, j'ai compris, je lui ai dit, j'ai fait une sorte de serment, j'ai dit à la vague, ben, écoute, voilà, aujourd'hui tu veux pas te montrer, tu fais ta diva, mais j'ai compris, je vais revenir rien que pour toi, et la prochaine fois que je viens, ben, c'est vraiment pour faire un roman que sur toi. Et je vous assure que je lui ai fait cette promesse, hein, c'est sur ce bateau de Michael. Et ça, c'est pour revenir en 2018, donc l'an dernier, monter une expédition rien que pour elle, et parce que vraiment, il y avait cet amour fou pour une vague. Voilà cette longue histoire d'amour pour la vague.
Et donc c'est en 2018 que tu as commencé à écrire sur elle véritablement et remplir ces carnets qui sont très beaux parce que tu dessines aussi magnifiquement, tu la dessines magnifiquement, tu dessines des paysages. Est-ce que c'est là vraiment qu'a germé l'idée du roman ?
Alors le roman, il a germé dès 2010. Si on remonte les interviews, je me suis rendu compte que déjà en 2010, je citais Terra Hupo, je citais cette vague, elle hantait mon imaginaire, elle était présente, et ça montre aussi combien la littérature, c'est de la décantation. Vous savez, un roman, on demande souvent la question, mais alors, quand est-ce que c'est né, d'où ça vient? Mais ça vient de très très loin, un peu comme cette vague de 1200 km d'élan, hein, c'est pareil, l'imaginaire, c'est pas un point précis dans le passé, c'est en fait plein de strates géologiques comme ça qui vont surimposer, qui vont se surimprimer. Et petit à petit, il y a ce feuilleté du souvenir, il y a ce feuilleté de l'émotion. C'est-à-dire que bon, on engrange beaucoup. Moi, je me créais des dossiers avec tout ce qui se passait au niveau surf à Terra Hupo. Et après, à un moment, il faut se lancer. Quand on a du désir pour un roman, Ben, ça ne suffit pas. Le désir, c'est du travail aussi. Le désir, c'est l'impulsion, c'est l'étincelle, c'est un peu ce frottement de silex qui fait que vous allez partir. Moi, je dis toujours que je pars en écriture. C'est un départ, c'est un voyage. Et c'est comme une expédition maritime. Hein. Ça demande de l'isolement, ça demande de la préparation, ça demande une forme ensuite d'assaise pour être complètement présent à son sujet et s'ouvrir à la différence. Et donc cette expédition de l'an dernier, qui a duré 2 mois, où j'étais toute seule sur la presqu'île de Tahiti, parce que la vague, elle est, pour vous représenter l'île déjà, l'île de Tahiti, c'est pas uniquement une île, c'est une grande île, Tahiti Nui, et une petite île, Tahiti Iti, et les deux sont reliés par un isthme. Et cet isthme, c'est magnifique, c'est étroit, donc c'est cette langue de terre qui relie les deux îles. Et là, d'un côté, on a le vraiment. Mais quand on se met en haut, parce que c'est montagneux en plus, donc quand on monte en haut d'un belvédère, le plateau de Taravao, ben là, on domine le lagon, on voit toutes les couleurs comme ça du lagon, on a l'impression qu'on a une palette mais extraordinaire. Et tout au bout de la presqu'île, on a la vague de Te Ahupo. Alors, elle n'est pas exactement tout au bout, mais elle est tout au bout de la route. Et parce qu'en fait, elle est exactement au point kilométrique zéro. Et ça, pareil, pour l'imaginaire, c'est extraordinaire. Vous imaginez se dire qu'il y a la plus belle vague du monde. C'est énormément de surfeurs qui disent que c'est la plus belle vague du monde. Ben, elle est pile au bout de la route. Donc là, la route s'arrête. Ensuite, on bascule dans la brousse. Il n'y a plus de téléphone, il n'y a plus de voie. En fait, on est obligé de marcher comme ça sur le bord du lagon. Enfin, il y a des hordes de chiens. C'est pas du tout le même. C'est pas pareil. C'est bien plus sauvage, quoi. Et ça, c'est ça aussi pour l'imaginaire. Je me disais, ben, c'est beau. Tu vas commencer un roman là où la route finit. C'est comme si d'un seul coup, il y avait quelque chose de bien plus ancestral, qui va avec les légendes, qui va avec une terre qui est habitée par ce qu'ils appellent le mana, donc une puissance spirituelle qui est très forte. Et ça, c'était à la fois vraiment s'ouvrir à un paysage qui était d'une puissance naturelle extraordinaire, tant du côté terre que du côté mer, enfin lagon et océan, et en même temps s'ouvrir à quelque chose de racinaire, de légendaire, de bouleversant.
Et justement, dans ce paysage presque idyllique, presque, enfin vraiment le paradis sur terre, tel que tu le décris, comment l'intrigue romanesque va s'enclencher en toi ? C'est-à-dire, puisque à ce point kilométrique zéro, tu vas y mettre des personnages, forcément, tu vas imaginer une histoire, même si tu pars de quelque chose de bien réel et de bien visible, tu vas imaginer à partir de là le départ de ton imaginaire. Est-ce que c'est Hiro ? Est-ce que c'est l'image du surf, du surfeur qui est vraiment ancré là ? Comment tu les as décidé ? Comment ils se sont apparus tes personnages dans ce paysage ? Tes personnages à toi ?
Alors, le départ, c'est vraiment la vague. Hein. C'est pas les personnages. C'est elle, parce que c'est un personnage à part entière. Enfin, cette vague, elle est tout autant belle que meurtrière. Alors, elle n'a pas tué tant de surfeurs que ça. Mais pour une bonne raison, c'est qu'elle est tellement dangereuse qu'il y a très peu de surfeurs qui sont capables de la chevaucher. Donc déjà, ça fait le tri. Hein. C'est vraiment résiduel, hein, le nombre de surfeurs qui sont capables d'affronter Te Ahupo. Alors, encore plus quand en fait, il y a des très fortes houles. Hein. Et après, vous dites, ben, OK, je vais faire un roman sur une vague, mais ça ne peut pas rester vague, justement. Comment on tient ça ? Comment on tire les fils de ce roman ? Et là, ça devient complexe, parce qu'il faut vraiment en faire un personnage. Et moi, je me disais, mais c'est l'héroïne type. C'est sincèrement, quand on regarde ce mur comme ça qui se lève et qui prend toutes les couleurs, en fait, il y a quasiment tous les jours des arcs-en-ciel juste au-dessus de cette vague. Enfin, on passe mais par toutes les palettes de bleu, de vert, de gris. Enfin, on peut passer sa journée à la regarder. Et après, on pourrait faire un roman rien que sur ça. Hein. Moi, je suis sûre que c'est possible de faire un roman rien que sur quelqu'un qui regarde la vague depuis le rivage. Mais après, on se dit, ben, il faut aller chercher, pas seulement, enfin, il ne faut pas uniquement partir de mon désir, mais il faut aller chercher tout ce que cette vague, elle concentre aussi dans ce lieu. Donc, d'où le travail de terrain, parce que pourquoi finalement aller en Polynésie pour écrire le roman La Vague ? Vous allez me dire, quand on est écrivain, on a cette sorte de baguette magique qui fait qu'on est chez soi, on peut recréer un paysage, on peut mettre les couleurs, les sensations, les émotions. Et pourquoi aller en Polynésie ? Aujourd'hui, en plus, on a les vidéos, on a Internet. Mais en fait, Internet, c'est un faux savoir. Alors, c'est un savoir qui est tout à fait légitime, hein. C'est pas la question. Mais en même temps, c'est un savoir qui est trompeur pour moi, parce que c'est le savoir sans tout ce qui fait la force de l'humain qui est l'émotion et la sensation. Donc c'est un savoir qui est froid, c'est un savoir qui est mort, c'est un savoir en fait qui est fiché. Donc c'est un peu comme si vous disiez que vous connaissez les papillons quand vous les regardez en fait épinglés. Pour moi, Internet, c'est ça. C'est vraiment le papillon qui est épinglé dans une boîte. Et c'est pas vivant, c'est pas vibrant. Donc quand vous allez dans un lieu, quand vous allez faire un vrai travail d'immersion et pas de documentation, d'un seul coup, le papillon, il se met à vivre, il retrouve sa couleur, il retrouve son mouvement. Et c'est très, très différent. Donc là, ce qui comptait, c'était aussi d'aller recueillir une parole, d'aller rencontrer réellement les surfeurs, d'aller rencontrer tous les gens en fait qui affrontent cette vague, parce que ça c'est aussi quelque chose qui m'a intéressé, c'est que le surfeur c'est un personnage qui cristallise tout un imaginaire. Ça représente une culture de la liberté, une culture très liée à la nature, une forme aussi de quête du moment parfait, de l'instant parfait, parce qu'il y a un rapport au temps qui est très particulier chez le surfeur. Ça dure pas longtemps en fait. Le moment où, comme ça, il fait corps avec la vague et où il ressort, où il est rendu par l'océan. Mais en même temps, c'est des moments qui frôlent l'éternité. C'est une sorte de jouissance qui cristallise tellement l'instant que cet instant, ça devient l'intensité. Donc ce rapport au temps, il est très intéressant. Et après, moi, la question, c'était, un surfeur, il vit l'intensité. Il vit vraiment une sorte de jouissance totale, parce que c'est un rapport très érotique à la vague. Mais une fois qu'il est recraché, qu'il finit sur le rivage comme ça, c'est super dur de passer de héros à l'homme qui marche et qui doit affronter tous les problèmes, et puis qui n'est pas forcément un héros à terre, qui a aussi tous ses problèmes, toutes ses dissensions, toutes ses faiblesses, toutes ses lâchetés. Donc qu'est-ce qu'un surfeur à terre aussi ? Qu'est-ce qui devient, quoi ?
Donc ce personnage, donc Hiro, c'est ton personnage, ton héros principal, c'est le surfeur mythique, légendaire, c'est le prince. Est-ce qu'il est inspiré donc de surfeurs réels comme Birdie, comme Lascar, comme tes autres personnages, comme cette amitié infectible qui les lie ? Est-ce que eux, ils sont inspirés uniquement de ces rencontres avec cette immersion que tu as menée, presque comme une enquête sur le terrain, ou est-ce qu'ils sont aussi nés de quelque chose qui était pour toi une volonté de montrer justement cet envers du décor et pas que le côté justement idyllique et merveilleux de ce monde ?
C'est exactement ça. La Polynésie, c'est un lieu qui est très puissant, qui est très fort. C'est pas une beauté, terne, c'est pas une beauté morne. Moi, j'ai beaucoup voyagé et sincèrement, c'est un des lieux que je trouve le plus magnifique au monde. C'est stupéfiant. C'est une beauté qui vous laisse sans voix. La première fois que vous voyez la Polynésie, déjà quand vous arrivez en avion, que vous voyez les lagons comme ça, mais vous dites, mais c'est pas possible que ce soit aussi beau. Pourtant, aujourd'hui, on a un rapport à l'image qui est un rapport extrêmement banalisé, quoi. On voit tellement de photos qu'on a l'impression qu'on peut plus rien découvrir. Mais là, on se dit, non, là, c'est encore plus beau que tout ce que j'avais vu, c'est encore plus beau que tout ce que j'avais pu imaginer. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est après de rendre justice à des lieux. Dire un lieu, c'est pas une carte postale, c'est pas du papier glacé. C'est des gens, c'est des souffrances, c'est des grandes aventures. C'est tout autant, en fait, c'est cette patte humaine qui fait qu'il y a tout autant du noir que du blanc. Et un roman, ça doit rendre toute la palette. Ça doit pas, en fait, essayer de sectoriser, de fragmenter, de donner une vision, en fait, de petite lucarne. Moi, je trouve que le roman, c'est un lieu où vraiment on peut aller loin. Donc ça, c'était aussi le projet, c'était de respecter vraiment la Polynésie, de la faire parler, Donc bien sûr que c'est né de cette patte de rencontres très fortes, tout autant avec des surfeurs que des pêcheurs, donc des gens qui ont une renommée, que des gens complètement inconnus. Parce que j'aime bien aussi donner la voix à des gens qui n'ont pas forcément voix au chapitre, qui ont l'impression qu'ils ne sont pas intéressants. Comme j'ai rencontré des pêcheurs qui pêchent avec des techniques ancestrales. C'est de la pêche au caillou. Donc j'ai trouvé ça complètement fascinant. Ils pêchaient comme ça dans l'océan avec des cailloux. Et je me souviens que ces gens-là, ils étaient étonnés. Ils me disaient, mais c'est intéressant ce que je raconte et tout. Je disais, mais oui, mais c'est passionnant. Moi, j'ai jamais pêché au caillou. Donc bien sûr que c'est hyper intéressant. Et ça aussi, un roman, c'est une sorte de terre ferme, de réservoir pour que vous retrouviez un savoir qui n'est pas un savoir généraliste ou orienté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vit avec une très forte pression de modèles comme ça, prégnants, et qui écrasent un peu aussi des cultures moins connues, quoi.
L'ombre de ton roman, ça apparaît dès le départ. Le point de départ de ton roman, c'est aussi la confrontation, c'est l'intrusion dans ce paradis d'un élément perturbateur, du chaos, qui va semer justement le trouble et qui va porter toute la menace sur ce paradis. Donc il y a Hiro, le prince, celui qui est le surfeur, la lumière, et donc va arriver un autre surfeur qui vient d'ailleurs, lui, qui est un surfeur hawaïen, qui s'appelle Taj. Et qui est lui aussi inspiré de personnages réels, ou est-ce que c'était justement pour contrecarrer cette lumière? Est-ce que Taj, il est apparu pour justement faire servir l'ombre dans le roman, pour servir le côté noir de l'affaire?
Oui, parce qu'en fait, quand on s'intéresse à la Polynésie, on se dit, ok, c'est le paradis, c'est des plages comme ça, de sable blanc. Alors, pas forcément d'ailleurs, parce que à Te Ahupo, c'est des plages de sable noir. Donc, on voit déjà que la carte postale, c'est pas exactement la même. Et on nous montre beaucoup moins les plages de sable noir, comme si c'était moins beau. Moi, je trouve que c'est très intéressant, parce que ça ramène à ce côté volcanique, à ce côté comme ça, aussi très présent des terres. Hein. Et oui, c'est né d'une histoire vraie, parce que j'étais impressionnée par la pudeur des Polynésiens. C'est des gens qui sont extrêmement pudiques, qui sont pas comme nous. Déjà, ils trouvent qu'on parle trop. Bon, ça, ils ont sûrement raison. Ils trouvent qu'on parle fort. Bon, ça, ils ont aussi sûrement raison. Et eux, ils sont beaucoup plus dans le retrait. Ils vont vous observer, vous regarder longtemps. Alors, ce qui veut pas dire que c'est moins intelligent comme comportement, au contraire. Je trouve que c'est un temps qui laisse le temps de la décantation, un peu comme l'écriture. Ça correspond plus au regard de l'écrivain, finalement. Et c'est là que je me suis dit, mais ces gens, c'est très compliqué pour moi d'écrire un roman, parce que je vais avoir l'impression, encore une fois, de me surimprimer à leur voix. Et on les a tellement étouffés pendant des années, quand même. Les Polynésiens, on leur a interdit de parler leur langue, on leur a interdit d'être fiers de leur culture. Moi, je me suis dit, mais comment faire pour venir de métropole et respecter aussi leur culture, ne pas finalement avoir ce rapport très, très autoritaire. Donc pour ça, j'ai essayé de beaucoup, beaucoup les écouter, de très peu parler et de les écouter. Et c'est là que ça, c'est devenu passionnant, parce qu'ils m'ont dit, mais voilà, nous, on est beaucoup moins mis en lumière, au niveau surf par exemple, parce qu'on représente beaucoup moins d'argent. Et alors au début, je ne me représentais pas les choses de cette façon. Ils me disaient, imagine, tu es un surfeur américain, tu portes, alors eux, ils appellent ça un tricot, hein, donc un haut, un lycra d'une marque. Il dit, t'as combien de likes, t'as combien de personnes qui vont te suivre, de followers sur les réseaux sociaux? Et t'es polynésien, t'as combien de personnes qui vont te suivre? Il dit, après, avec ça, tu comprends pourquoi on peut avoir autant de talent, vraiment autant de prouesses, autant de bravoure sur une vague. Et puis après, ce ratio, qui aujourd'hui est une sorte de dictature aussi, hein, ce ratio va faire qu'on sera beaucoup moins mis en lumière, et que finalement, parfois, c'est des étrangers qui vont remporter comme ça toute la lumière sur la vague parce que justement il représente un poids commercial plus important. Je me suis dit waouh, c'est vrai que c'est violent, hein. C'est quand même leur lieu, c'est leur vague. Avant il n'y avait personne qui la surfait, maintenant qu'elle est médiatisée depuis la vague du millénaire en 2000, il y a un peu tout le globe qui s'intéresse à Théa Houpeau, qui guette l'arrivée des fortes houles. Et je me suis dit, waouh, mais c'est vraiment très, très violent quand même. D'un seul coup, leur petit paradis, leur spot comme ça, entre eux, ça devient un spot qui est mondial. Donc, d'un côté, c'est bien, mais en même temps, on voit tous les dangers comme ça de problèmes qui sont liés après à des problèmes comme l'acculturation. Enfin, c'est compliqué aussi de perdre sa culture, de subir la pression de la culture des autres. En même temps, il faut se renouveler, en même temps, il faut s'enrichir. Le but, c'est pas de vivre de façon complètement autarcique, mais en même temps, c'est une super menace sur leurs racines. Donc ça, c'est ce qu'incarne Hiro. Il incarne cette tension entre vraiment une fierté. Il est fier de sa culture, il connaît par cœur les légendes de ses vallées. Donc ça, c'est les vraies légendes que je suis allée recueillir dans les vallées qui sont juste à côté de Théa Houpeau, avec des gens qui les habitent, qui les cultivent. Et en même temps, il sent que c'est pas évident aujourd'hui d'être à la fois un homme lié à ses racines, lié à sa terre, et un homme qui est relié à la modernité. Donc c'est un écartèlement qui est très très complexe.
Donc il y a deux arrivées qui vont perturber donc cet équilibre, celle donc de Tash, ce surfeur qui vient le défier sur sa vague, qui vient le défier sur son propre territoire comme un guerrier qui le menace, qui vient le conquérir ses terres. Mais il y a aussi un retour beaucoup plus doux, celui de la sœur de Hiro, Moea, qui elle vient au contraire, apporter quelque chose, un retour qui est quand même là aussi qui pose question. Pourquoi est-ce qu'elle revient après ces temps d'absence? Elle a laissé son fils Tweety qui a 13 ans, qui est un adolescent, qui lui est un surfeur, un jeune surfeur qui prend comme modèle son oncle, donc Hiro. Et il y a plusieurs fils narratifs comme ça qui sont que tu tires. Et à côté de ce groupe-là, de Hiro, de ses amis, Lascar, Birdie, Moea, donc la sœur, Tweety, il y a un autre fil narratif qui est totalement, on ne comprend pas le lien, c'est celui de Reva. Reva, elle, c'est l'élément du rêve, justement, dans le livre aussi, mais quel est son rôle dans l'histoire, en fait? Qu'est-ce qu'elle vient apporter par rapport à l'histoire principale, l'intrigue principale de cette confrontation entre Hiro et Tash?
Alors là, ça montre vraiment la part de l'immersion et de ce travail vraiment de terrain et pas de documentation en Polynésie. C'est qu'au début, moi, j'avais prévu une intrigue policière classique, avec autre tige.
Voilà,
j'étais habituée à des intrigues très verrouillées, avec des immersions très longues dans tous les services de police. Enfin, Haute Voltige, c'était avec la brigade de répression du banditisme du Quai des Orfèvres. Il y avait aussi des liens avec les méthodes de filature du raid et de l'anti-gang, les méthodes conjuguées, tout ça. Donc ça, c'était un travail très patient, très minutieux, vraiment. C'est ce côté dentelière hein, dans l'écriture. Et là, quand je suis arrivée là-bas, je me suis dit, mais les lieux sont tellement forts, les gens sont tellement forts, la vague est tellement puissante, qu'en fait, j'ai pas besoin d'une intrigue policière. Il faut s'appuyer sur cette force et trouver un ressort qui soit bien moins évident, qui soit plus subtil, qui corresponde un peu aussi à ce côté très, très pudique de la Polynésie. Et là, ça a été une révolution pour moi, parce que je me suis retrouvée avec des plans qui étaient complètement caduques. J'avais plus du tout envie de faire une intrigue policière avec un nœud comme ça qui autour de policiers.
Déjà, on le sentait dans le Voltige. Il y avait moi ce côté purement enquête.
Ouais, même s'il est là, hein, c'était vraiment les méthodes de la BRB. C'était sur le plan policier, on apprend énormément de choses avec Haute Voltige. Et là, je me suis dit, en fait, même si je suis allée réellement voir les policiers à Papeete, si je me suis beaucoup penchée sur le trafic d'ICE, c'est les méthamphétamines. Vous savez, c'est vraiment une drogue qui ravage la Polynésie. C'est une drogue qui est extrêmement addictive. C'est des cristaux d'ICE, d'où le nom. Hein, c'est des cristaux, en fait, qui sont transparents. très légèrement blanchâtre. Et on dit qu'à la première bouffée, comme ça, vous pouvez devenir accro. Et la jeunesse, elle est extrêmement menacée à Tahiti par l'ICE, parce que, justement, la première dose, elle est souvent offerte. C'est vraiment le cadeau empoisonné, vous voyez. Et ça, c'est une technique pour essayer de gagner de nouveaux consommateurs. Donc les gens, comme c'est très cher, ils ont l'impression qu'ils ont le cadeau ultime, sauf que c'est vous offrir comme la mort au rat, vous voyez, c'est un peu ça. Donc ça m'intriguait, parce que justement, ça créait un rapport à la Polynésie qui était bien plus intéressant que la carte postale. C'était OK, on a un paradis, mais on a un paradis qui est complètement menacé par cette drogue ravageuse et addictive. Donc là, moi, j'ai essayé de rencontrer le plus possible de gens aussi autour de l'ICE. J'ai aussi suivi Père Christophe, qui est le père de la cathédrale de Papeete, parce que lui, il fait des maraudes la nuit auprès des drogués, des prostituées, des pauvres. Donc ça, c'était aussi un autre rapport. Vraiment, pour le coup, c'est l'envers de la carte postale. Là, on ne peut pas dire que ça fasse partie du parcours touristique.
Il était évident que Taj, donc ce surfeur américain, soit lui-même un personnage qui consomme cette drogue, qui soit vraiment ce diable tentateur.
Ça, c'est né aussi de vrais surfeurs, vous savez, de très grands surfeurs que vous connaissez sans doute, mais qui ont eu un destin tragique, parce que justement, ils sombraient dans l'alcoolisme, ils ajoutaient à ça beaucoup de drogues. Et puis, il n'y a qu'à voir le destin aussi d'Andy Irons, qui a donné lieu à un film. Et pareil, je me disais, mais waouh, ça doit être une sacrée solitude quand on est capable de tels exploits, et qu'en même temps, cette image à tenir, elle est infernale, parce que vous êtes enfermé dans une sorte d'image de l'excellence, de toujours repousser les limites. Et repousser les limites, c'est quand même pas ce qu'on a de plus naturel au quotidien, vous voyez. Donc ça aussi, ça peut devenir une drogue, de se dire, ben, tiens, je vais me pousser à bout, je vais toujours être sur le fil de crête. Et ça, je trouvais que ça rendait ces demi-dieux, comme on les appelle, les surfeurs, mais que ça les rendait très humains aussi. De se dire, ben, wow, ça crée des fragilités qui sont énormes. Donc voilà, ça c'était l'autre côté. C'était aussi de s'immerger dans cette part sombre, et qu'on a tous aussi en nous, à des doses plus ou moins importantes. Mais vous savez très bien que c'est dur parfois de pactiser avec sa part d'ombre. C'est ça aussi, la vague. La vague, c'est pas que la vague hyper visible, monumentale de Te Ahupo. C'est aussi toutes les vagues qu'on a en nous, les vagues d'émotion, les vagues de passion, les vagues de colère, les vagues de frustration, les vagues de violence. Et qu'est-ce qu'on fait de toutes ces vagues en nous? Donc moi, je dirais que la vague de Te Ahupo, c'est un peu la vague qui cache toutes les autres vagues dans le roman. Et Reva, elle synthétise, en fait, elle synthétise cette autre forme de vague. C'est un personnage très énigmatique. Comme tu l'as dit, au début, on se dit, mais tiens, mais qu'est-ce que c'est que ce personnage qui est lié à des pensées sur le mal? C'est-à-dire, chaque fois que Reva apparaît, c'est lié à des pensées sur le mal. Parce que je me disais qu'aussi, la Polynésie, c'était le lieu idéal pour réfléchir la question du mal. C'est tellement beau qu'on se dit, mais le mal, il a l'air encore plus indécent, il a l'air encore plus une erreur de la création, quoi. C'est quand vous vivez la cruauté, la méchanceté, la violence ou l'injustice en Polynésie, c'est tellement greffé sur un cadre qui est enchanteur et paradisiaque que le mal apparaît de façon encore plus frappante et questionnante. Donc... je pense que la vraie énigme du roman, c'est ce personnage de Reva. Et ça, au bout d'un moment, je me suis dit, mais finalement, il n'y a rien de plus fort dans la vie que le mystère que représente chacun autour de nous. Enfin, regardez comment on est mystérieux à soi-même, déjà. Il y a des jours où je pense que vous avez du mal à vous comprendre, vous avez du mal à vous lire, de la même façon qu'il faut lire une vague pour arriver à la surfer, mais il y a des jours où on n'arrive pas à surfer soi-même. On est complètement submergé, dépassé par qui on est. Et ça, c'est en fait le vrai horizon de ce roman. C'est, euh, c'est de se dire, mais le plus grand mystère, c'est soi-même. Hein, c'est... Et après, le plus grand pari, c'est de se découvrir et de savoir qu'est-ce qu'on fait de tous ces territoires inconnus en nous.
Réva, c'était aussi un moyen de peut-être d'interroger ce que tu avais déjà mis en jeu dans tes autres livres, qui sont la féminité, la sensualité, qui est toujours très présente dans tes romans. Là, d'autant plus, Réva, c'est un peu le point ultime. C'est pas la femme fatale, mais pourtant, elle se rêve. Elle est une forme d'image presque de Vainé avec ses longs cheveux noirs. Donc, elle incarne aussi un peu une sorte de cliché de la polynésienne. Mais ouais. En même temps, c'est aussi une petite sœur d'Ilana, de Doltige ou d'Adriana dans Angle Mort, qui étaient déjà des personnages féminins qui étaient très, très forts et très sensuels. Est-ce que dans chacun de tes romans, tu as le sentiment, comme ça, d'interroger ce qu'il en est du masculin, du féminin, de cette sensualité que tu as à chaque fois que tu mets dans tes romans, puisque les sens y sont convoqués. Tu parlais d'érotique de la vague, mais il y a aussi les sens dans la cuisine, puisque chacun de tes romans est immergé aussi dans la culture et avec la cuisine polynésienne d'autant plus. Est-ce qu'à chacun de tes romans, c'est quelque chose que tu fais consciemment ou qui t'apparaît après dans ton travail, dans tes carnets?
Après, je pense qu'un roman, ça nous dépasse complètement. Enfin, c'est, et heureusement d'ailleurs, hein, parce que sinon, on serait des machines à écrire. Et un écrivain, c'est tout sauf une machine à écrire. Nous, on est moi, je trouve qu'on est des surfaces comme ça qui sont criblées par des émotions, des sensations. Et moi, à chaque fois, quand je fais de l'immersion, je cherche à être émue, à être profondément touchée par un lieu, des gens. Et c'est qu'après coup que je me rends compte que ça répond à des questions que je me pose fondamentalement. Donc je pars d'abord de cette émotion, c'est-à-dire que je me décentre. C'est pour ça que je n'écris pas des autobiographies. Hein. C'est très différent. C'est vraiment c'est des romans qui vont chercher à chaque fois l'altérité, cette grande richesse du renouvellement qui est l'autre. Je trouve que c'est une merveille qu'on soit entouré par des êtres qui sont parfois aux antipodes de nous. Hein. Loin de m'effrayer, moi, je trouve que c'est aussi la chance de pouvoir réviser son propre jugement, ses propres valeurs et d'être perturbé. Et c'est vrai que cette question du masculin et du féminin, c'est finalement une question qui est en filigrane. Elle n'est pas forcément apparente, elle est bien plus dans La Vague, mais elle était en filigrane déjà dans les autres romans, parce que dans Angle Mort, on avait ce personnage d'Adriana qui était une trapéziste. Parce que ce qui m'intéressait, c'est qu'une trapéziste, ben, c'est tout autant la force que la grâce. Et je trouve que chez une femme, c'est quelque chose de très beau. Et après, ben, moi, je me rendais compte que j'avais été vraiment marquée par le modèle de mon frère quand j'étais jeune. Parce que lui, c'était un vrai casse-cou. C'est quelqu'un qui escaladait tout, qui était extrêmement physique. Et il était tellement physique que ma grand-mère, elle voulait pas le garder parce qu'elle disait qu'il était trop périssable. Elle disait, mais non, je veux pas le garder parce qu'il est trop périssable. Donc, c'est vrai que c'était quelqu'un qui prenait beaucoup de risques. Et ben, moi, ça a questionné ma féminité parce que je me suis dit, ben, tiens, c'est une vraie vie d'aventurier ce qu'il a. Donc, j'ai essayé de le suivre le plus possible. Mais ce qui fait qu'après, je me retrouve dans des situations à vouloir aller nager dans cette vague monstrueuse pour le roman aussi. Ça, c'est aussi c'était une vraie question. C'est est-ce qu'il faut aller nager dans cette vague pour écrire La Vague? C'est pas forcément, évidemment. C'est pourquoi aller prendre ce risque? Pourquoi aller se mesurer à un monstre, quoi? Mais en même temps, moi, je suis persuadée que si j'étais pas allée sentir la force de la vague, vraiment me mesurer à elle et puis sentir cet écrasement quand elle vous passe dessus, je me souviens, les surfeurs, ils me disaient, tu vas voir, c'est un massage puissant quand elle te passe dessus. C'est vrai que c'est pas un massage, c'est un rouleau compresseur. Quoi. Ça vous fait descendre d'un seul coup d'un mètre. Vous allez vous planquer dans des canyons, dans les failles dessous pour pas vous faire emporter. Enfin, c'est quand même une turpitude incroyable. Quoi. Et ben ça, à chaque fois, ça questionne aussi ma part de féminité. Et je trouve qu'aujourd'hui, c'est pas facile. C'est pas facile d'être un homme, c'est pas facile d'être une femme. Enfin, une femme, on a l'impression qu'on est, quand même très marqué par les discours féministes, hein, qui ont leur légitimité, hein, c'est pas du tout la question. Mais après, on a l'impression que les hommes, c'est super dur d'être un homme, parce que c'est pas toujours facile de devoir assumer, de devoir être fort, de devoir être courageux. Enfin, je pense qu'en tant qu'homme, il y a des moments où on a envie d'être lâche, où on a envie de, moi aussi, de pas être l'archétype de la virilité. Donc aujourd'hui, j'ai l'impression que il y a un terrain qui est vraiment ouvert aussi pour la nuance dans toutes ces questions, pour la nuance et pour essayer de trouver des zones de ben vraiment de d'alliance de, où on se réunit et où on n'est pas comme ça cloisonné ou un peu raidi dans des positions. Et Reva, ça questionne aussi cette frontière, c'est-à-dire comment on gère cette question en nous de l'identité.
Finalement, ce roman, comme d'autres de tes romans, ça questionne toujours une forme de dualité. Donc masculin, féminin, jour, nuit, aurore, crépuscule, dans ce roman, ça questionne pas mal de choses comme ça qui ont trait a priori à quelque chose de bien mal, manichéisme. Pourtant, il n'en est rien. Il n'y a pas quelque chose de blanc, de noir. Même si Ro, il incarne une forme d'idéal, il y a quelque chose de profondément abyssal chez ces personnages, de profondément vertigineux. Et ça que tu vas chercher, l'impression que c'est cette ombre qui appelle la lumière et la lumière qui appelle l'ombre, comme tu mets en exergue, c'est ton travail, dépasse la question du genre, polar, pas polar, roman noir, roman tout court. Est-ce que c'est un travail vers lequel tu tends de plus en plus ou c'est ce roman-là qui a décidé ça plus que les autres?
Ouais, encore plus que les autres, ouais, je pense, hein, parce que la vague, ça invite à la profondeur. Hein. Une vague, c'est pas justement, c'est un phénomène de surface, mais qui a une dimension, qui a une sorte de cavité. Enfin, c'est les surfeurs, ils disent que quand ils se retrouvent dans Te Ahupo, les jours de forte houle, ben c'est comme s'ils étaient dans un. En fait, ils disent, on peut mettre un camion de pompiers sous la vague, quoi. Tellement c'est énorme, quoi. Et ils disent, c'est un peu comme un hall d'aéroport aussi. Enfin, il faut se représenter ça. C'est à la fois une surface, mais une surface qui se creuse comme ça, qui part d'un mur et après qui va se creuser. Et c'est comme les gens. Moi, je me suis toujours dit, mais les gens, la surface, elle est pelliculaire. Aujourd'hui, on est complètement obnubilé par l'image, par le visuel. On a l'impression qu'on n'a que des gros yeux, quoi, comme dans les mangas. Alors que ce qu'il y a de plus intéressant, c'est quand même d'aller sonder, d'aller découvrir, c'est l'exploration. Et un roman, c'est une terre d'exploration. Donc on a le temps d'aller géologiquement, comme ça, plonger dans les profondeurs des gens. Et souvent, moi, je me suis dit, mais il y a des gens comme ça, on se méprend, on a l'impression que la surface, elle n'est pas très intéressante. Puis d'un seul coup, on a une grande claque parce que la personne, elle se met à parler. Et en deux, trois phrases, on se dit, waouh, il y a vraiment quelqu'un à découvrir. Mais comme un pays. Il y a des pays, ils sont séduisants, c'est un peu racoleur comme ça, ça nous fait l'œil, mais après, une fois qu'on y est, ça peut être fade. Et il y a des pays qui se méritent, qui se découvrent. Mais comme les villes aussi. Hein. Je suis sûre, parfois, vous avez été surpris par des villes où vous avez dit, ça, c'est une ville noire, c'est une ville minière, ou je ne sais pas. Et en fait, vous vous rendez compte que quand vous rentrez dans l'intimité d'une ville, c'est comme une personne, après. C'est là que ça commence.
Et ce nouveau roman, ce quatrième roman, justement, il s'inscrit totalement dans la ligne de Equinox, puisque c'est même le logo en lui-même, ce yin et ce yang, ce blanc et ce noir mélangés. C'est progressivement ce travail avec Aurélien Masson, ton éditeur que tu as suivi depuis la série noire, depuis Gallimard, qui t'a révélé en 2010 avec Quai des Enfers. C'est justement ça, ça s'inscrit vraiment dans cette continuité de ce travail, ton travail personnel avec tes propres obsessions, ses propres thématique qui te questionne, c'est justement la même ligne de force chez toi.
C'est la même ligne, mais qui s'est épurée en fait, parce que je trouve que la ligne d'écriture de la vague, elle est différente parce qu'il y a eu tout ce travail
les carnets d'écriture,
oui,
justement,
que vous pouvez feuilleter. Alors ça s'ouvre sur le Connemara, parce que je vais beaucoup écrire aussi en Irlande, dans le Connemara, parce que j'adore tous les lieux sauvages, en fait, toutes les îles où il y a la mer, que ce soit froid ou chaud autour. Et en fait, vous voyez, c'est vraiment né la réflexion sur l'écriture. Je ne sais pas si vous voyez d'ici, ça va être un test un peu ophtalmologique, mais c'est né de ce croquis sur le palmier, en fait, sur tout ce qui était palmier et cocotier. Parce que moi, j'aime beaucoup les couleurs, je suis fascinée par les couleurs. Hein, donc, Et j'avais commencé à essayer de les peindre avec les aquarelles, à essayer de trouver le vert. Le vert, c'est un enfer pour quelqu'un qui essaie de peindre, hein, parce que c'est la couleur la plus répandue dans la création. Et en même temps, vous vous rendez compte qu'il y a tellement de nuances de vert que c'est hyper difficile de rendre un vert. Et plus j'essayais, moins j'y arrivais, jusqu'au jour où j'ai compris qu'il fallait juste que je prenne une mine de plomb. Donc ce qu'il y avait vraiment de plus simple, de plus élémentaire, et en étant dans le gris, c'est-à-dire ne même pas chercher le vert, pas chercher la couleur, et qu'il fallait surtout comprendre le mouvement. C'est-à-dire, je me suis dit, ben, si tu rentres dans le cocotier, si tu te fais cocotier, et si tu essaies de ressentir le vent, et le vent dans les branches, en fait, et ben là, tu vas vraiment comprendre comment fonctionne le cocotier. Et arrête de te poser la question des couleurs et tout ça. Et c'est vraiment à partir de ce petit dessin, de ce croquis, qu'il y a un moment, il y a eu cette sorte de grâce où j'ai complètement ressenti le vent dans les branches et où je me suis dit, OK, j'ai aussi compris comment délester l'écriture. Donc ça vous montre aussi comment il peut y avoir des dialogues très forts entre le dessin et l'écriture. Et comment on peut comprendre à travers ça, comment la phrase, elle peut se délester. C'est-à-dire ne pas chercher forcément la couleur, mais rechercher l'émotion ou le mouvement et pas l'effet, finalement. Donc ça, c'était une école très différente.
Donc ce roman, est-ce qu'il est un moment de bascule aussi par rapport à ce que tu essaies de faire ou ce que tu fais ou ce que tu vas faire après? Est-ce que ça représente une sorte de cap ou d'étape particulière sur le chemin de ton écriture? Parce que tu as écrit d'autres choses, mais dans tes romans, c'était déjà là, enfin, le côté insulaire, le côté océanique. Mais en même temps, là, on comprend qu'il y a quelque chose qui s'est produit justement avec la vague, qui ne va plus, tes romans ne seront plus jamais les mêmes.
Alors oui, bien sûr, hein. Après, on n'est que progression, on n'est que métamorphose, hein. Vous savez qu'on n'est pas des êtres finis, c'est ça qui est bien avec la vie, c'est que c'est une trajectoire, c'est un parcours. Mais en même temps, il y a énormément de fidélité, parce que Quai des Enfers, le premier roman, ben, c'était un roman autour de la Seine, c'était comment voir le fleuve de façon différente. Oui. Hein, je m'étais dit, ben voilà, Paris, comme Victor Hugo avait fait avec Notre-Dame, hein, c'était voir Paris depuis la cathédrale. Là, je me suis dit, moi, j'ai envie de voir Paris depuis la Seine, depuis l'eau, comme j'adore l'eau. Et puis surtout, j'ai envie de la voir en plongeant, donc en suivant les plongeurs de la brigade fluviale, en représentant Paris, en fait, d'en dessous, quoi. Donc ça, c'est très logique. Ben, finalement, je pars de la Seine. Et puis après, ben, aujourd'hui, j'aboutis à l'océan. Il y avait eu même pas peur, qui était pour la jeunesse aussi, qui se passait aussi à l'île Dieu. Donc il y avait déjà l'océan. Et ensuite, ben finalement, je suis très fidèle à un autre livre qui est Le petit éloge de la nuit. Ça, c'est un abécédaire nocturne que j'avais écrit et qui est repris au théâtre, d'ailleurs, en ce moment, à la Scala avec Pierre Richard. Et j'adore la nuit. Je trouve que notre part nocturne, c'est vraiment c'est fascinant chez l'individu. Je ne sais pas si vous avez réfléchi à combien on est différent de jour et de nuit. On n'est pas la même personne. C'est normalement, on ressent quand même un peu ce fossé qu'on peut avoir en nous, qui se creuse quand on vit un peu plus longtemps la nuit, c'est-à-dire quand on décide de pas aller se coucher. Et là, il y a un côté comme ça un peu loup-garou, hein, mais au bon sens du terme, c'est que ça révèle quelque chose de plus pulsionnel en nous, de plus racinaire, de plus profond. Et La Vague, je trouve que c'est un vrai roman sur, je disais tout à l'heure, cette part enfouie, mais c'est aussi cette part nocturne, c'est notre nuit, c'est un roman qui révèle, ben, tout ce qu'on peut avoir de plus émotionnel, de plus sincère, et alors qu'on a un vrai roman d'action aussi autour du surf. Hein. Donc c'est deux formes de fidélité, c'est une fidélité à l'eau et c'est une fidélité à cette nuit en nous. Et je pense qu'il faut vraiment explorer sa nuit pour bien se connaître et faire aussi les bons choix de trajectoire. Parce que ça, c'est né d'une obsession que j'ai, qui est qu'est-ce qui fait qu'une trajectoire humaine, elle est intéressante. Alors, je ne parle pas de belle, hein, voyez, mais qu'est-ce qui fait qu'une trajectoire, au sens d'une flèche, comme une flèche qu'on décoche, c'est facile de dire si la flèche, elle atteint sa cible, mais chez un être humain, hein, c'est super difficile de se dire en quoi la trajectoire qu'est notre vie bah, va atteindre sa cible. Moi, je trouve que c'est une question qui est très, très difficile. Et ça, c'est la question un peu de tous mes romans, mais encore plus dans La Vague. Parce que je m'étais posé la question à partir de Romy Schneider, vous savez, l'actrice. s'est dit, ben voilà, alors Romy Schneider, est-ce qu'elle a une belle trajectoire de vie? Est-ce que c'est au sens, qu'est-ce qu'on pourrait dire de la trajectoire de vie de Romy Schneider? C'est à la fois une actrice qui a eu une vie incroyable, qui a vraiment marqué, qui était une femme superbement belle, et en même temps, mais quelle tragédie, quelle héroïne vraiment de tragédie grecque, quoi. C'est impressionnant. Donc c'est à partir de ça que je me suis dit, tiens, j'ai envie de créer aussi des personnages qui ont cette puissance dramatique.
Et cette vague incarne justement tout cette part d'indomptable en nous aussi. C'est ce côté insaisissable et proprement parlé romanesque qui est polarisé dans cet élément naturel, fougueux et en même temps feu et eau et terre. C'est les éléments qui sont tous réunis là-dedans.
Voilà, c'est nous, hein, c'est vraiment nous. Hein, c'est, quand on regarde le site de Théa Houpeau, de La Vague, c'est à la fois cet élément liquide, en même temps cet élément liquide, cet immense spectacle hein, que les gens, même s'ils ne sont pas surfeurs, c'est tellement beau qu'ils vont le voir en bateau. Et je me disais, c'est assez impressionnant. Ça peut être des gens qui ont peur de l'eau, qui ont peur des vagues, mais le spectacle est tellement beau qu'en fait, ils vont venir le voir en bateau. Et ça, pareil, j'ai beaucoup réfléchi. Je me suis dit, mais pourquoi c'est aussi beau une vague qui déferle? Et jusqu'au jour où j'ai compris qu'en fait, c'est cette puissance émotionnelle, en plus du fait que ça mêle plein de couleurs, qu'on a le blanc comme ça, écumeux, qui vient créer presque un côté montagne, en fait, hein, une vague qui déferle. On est tout autant dans une avalanche que dans un orage, que dans l'océan. Mais surtout, j'ai compris à Théa Houpeau quelque chose, à force de la regarder, c'est que ce qui fait qu'on est touché, ce qui fait qu'on trouve ça complètement incroyable, c'est parce qu'en fait, on va assister à la mort. Une vague qui déferle, c'est la mort de la vague. Et j'avais jamais pensé à ça avant. Mais il a vraiment fallu que je vienne plein de fois en bateau aller regarder cette vague pour que je comprenne que ce qui fait que ce moment il était tellement unique et tellement émouvant et tellement puissant et tellement fort, c'est juste parce qu'en fait, une vague qui déferle, ben, c'est une vague qui meurt. C'est cette mécanique des fluides, mais en même temps, ce côté ondulatoire qui, d'un seul coup, vient casser. Parce que c'est très précis, hein, une vague, elle va casser, elle va déferler quand sa hauteur est égale à 0,70 fois la profondeur. Donc c'est super précis. Hein. Et ça crée un stade de fragilité. Et cette fragilité crée de l'instabilité. Et cette instabilité crée le déferlement, en fait. Et là, je me suis dit, waouh, mais ouais, mais bien sûr, c'est la mort de la vague. En fait, ce que tu vas regarder tous les soirs, tous les jours, c'est la mort de la vague.
Est-ce que tu as été le présenter justement en Polynésie, ce roman? Est-ce que quand il a été reçu, justement, le retour des lecteurs là-bas, comment ça s'est passé ou comment ça va se passer?
Alors, ce qui est beau, c'est qu'ils sont très touchés parce qu'ils se reconnaissent justement dans tout ce travail culturel qu'il y a eu sur la Polynésie. Il y a eu un travail culturel qui a été vraiment sincère avec eux. C'était pas un rapport comme ça, juste de passé. C'était vraiment s'imprégner. Un rapport aussi à leur paysage. Parce que pareil, il y a un moment, une scène dans un vallon où on s'enfonce en fait avec Hiro dans sa vallée, avec ses légendes. Et ça, pareil, ça a été une très grande marche sous des pluies torrentielles à essayer de repérer chaque plante, chaque arbre et de goûter aussi tous les fruits parce que connaître, ça passe par manger aussi. Donc ça, c'est après pour que vous ayez l'impression vraiment d'être pleinement dedans.
Oui, on a parlé du personnage, par exemple, de Birdie, qui est cette meilleure amie de Hiro, qui est aussi clouée dans son fauteuil, qui est paraplégique, parce qu'il y a un accident de la fait, voilà, comme d'autres, de la réalité, l'a rendue paralysée.
Mais ça, c'est né d'une magnifique rencontre, une vraie rencontre avec un des plus grands windsurfers français qui s'appelait Baptiste Gossin, qui s'appelle toujours, heureusement. Hein. Et, sauf que Baptiste, ben, c'était un homme qui passait sa vie dans l'eau. Hein. Il est venu vivre à Tahiti juste parce qu'il était fou amoureux de la vague de Théa Houpeau. Et Baptiste, c'était un des champions de windsurf. Il s'est converti au surf aussi. Et un jour, la vague de Théa Houpeau, elle l'a pris. Et il m'a raconté, il m'a dit, ben, tu sais, c'est le seul jour où je n'ai pas écouté un principe que je m'étais toujours posé dans ma vie, qui était de jamais prendre la dernière vague. Vous savez, c'est comme au ski, on se dit, allez, aujourd'hui, c'est la dernière descente, hop, après j'arrête. Et ben, là, lui disait, chaque fois que je me disais, je vais en prendre une dernière, je me l'interdisais. C'était non, stop. Et là, ce jour-là, il sentait que l'onde, elle était vraiment électrique, qu'il y avait beaucoup de nervosité dans l'eau. Et puis, il ne s'est pas écouté. Il a pris cette dernière vague. Et là, la vague, en fait, elle a fait ce qu'on appelle l'effet scorpion. Donc, c'est quand elle vous prend et qu'elle vous retourne comme ça. Et elle lui a cassé comme ça. Et ce qui fait qu'il s'est retrouvé ensuite, paralysé. Et Baptiste, c'est la plus belle leçon de courage que j'ai vécue de ma vie, parce qu'il s'est retrouvé du jour au lendemain en fauteuil roulant, par amour de la vague, encore une fois. Je me suis dit, mais c'est incroyable, ça. C'est un type qui a été autant libre, qui a eu ce rapport si fort comme ça à la vague, et qui se retrouve privé de ses jambes. Et après ça, il dit encore... Ben, j'ai besoin d'y retourner. Il y retourne en scooter des mers, hein, parce qu'il dit, mais je l'aime toujours, quoi. Je me suis dit, mais si une femme lui avait fait ça, est-ce qu'il dirait aussi la même chose? Je ne sais pas, quoi. C'est, ça aussi, ça m'intriguait. Je me disais, ben, est-ce qu'il dirait la même chose?
Ce que tu veux dire de très beau aussi dans ton roman, c'est qu'il a aussi une bouche pour manger, une bouche pour aimer, pour embrasser. Et ça, c'est vrai que c'est aussi une belle leçon de vie, quoi, dans ce roman, que quand il dit aussi les gens ont peur de donner du sens à leur vie, après ils y tiennent plus que tout à la vie, parce que c'est un personnage debout finalement.
Ouais, exactement, c'est très bien dit. Ouais, c'est un personnage paralysé, mais debout, au sens où il a gardé une fierté dans cet amour de la vie, et ça lui donne une noblesse, mais c'est extraordinaire, quoi. J'ai rencontré beaucoup de gens qui avaient cette noblesse à Te Arupo, comme VTA David, qui est un des très grands surfeurs aussi de la vague. Et lui, c'est vraiment le surfeur à la rame. Donc quand on le voit arriver comme ça à la rame... on a l'impression que c'est une statue, quoi, que c'est une sorte de mirage à l'horizon, hein. Il est debout sur la vague, c'est sublime, c'est très très beau, et en même temps c'est un rapport très humble, parce que comme il dit, cette vague, elle a un détecteur d'humilité, et il faut jamais faire le malin avec la vague de Te Arupo.
C'est elle qui décide, c'est la femme fatale du roman.
Ouais, voilà, et en ça c'est vraiment une justicière, quoi. C'est elle qui décide,
c'est elle la vérité.
Je trouve ça beau de me dire, ben, c'est pour ça que le roman, il s'ouvre sur un viol. Il s'ouvre sur un surfeur qui n'a pas compris les règles et qui pense qu'on peut posséder une vague comme on possède une femme. Alors que on la possède pas, la vague. Il faut juste se faire accepter. Et ensuite, c'est elle qui décide si elle vous recrache ou pas, quoi.
Merci beaucoup, Ingrid Acier, de cet entretien qui nous a mené très loin, finalement, du surf jusqu'à des rivages qu'on n'avait peut-être pas forcément tous perçus à la première lecture, parce que c'est vrai que c'est un roman, c'est pareil, c'est un feuilletage, ça se déploie et ça se à l'infini.
Ça se relie aussi.
Ça se relie et en effet, on passe sur la richesse derrière le sentiment. Merci beaucoup.